I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer.
J'ai voulu écrire ce livre parce qu'on me le demandait, parce que je lisais partout que c'était des histoires de défis, de challenges, et en fait ce que j'entendais de mon histoire était pas du tout, collait pas avec ma vision, ma manière de le vivre.
Capucine Trochet, 39 ans, navigatrice et écrivaine, embarquée à travers l'océan Atlantique sur un petit voilier de pêche du Bangladesh, Taratari.
Je viens d'une famille plutôt de montagnards que de marins. J'ai trois grands frères et ni mes parents ni mes frères ne faisaient de bateau. Donc c'est pas quelque chose transmis de génération en génération. J'avais toujours, depuis que je suis enfant, cette image, un rêve que je faisais et que je répétais souvent. J'étais à bord d'une barque et un jour j'emmenais mes poupées, un jour mes peluches, un jour mes frères, un jour mes amis. Et je me souviens que même maman là me disait, mais je comprends pas d'où ça sort cette histoire de barque et de. Mais enfin, cette image, elle a toujours été là en moi. Après, et un jour, j'étais au Chili où j'ai beaucoup crapahuté dans les Andes, et puis j'arrive en Patagonie. Et je traverse le détroit de Magellan et tout ça. Et puis en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de terre et il y a une mer complètement sauvage et impressionnante, imposante. Et plus sud, c'est l'Antarctique. Et je me dis, pas pour aller là-bas, faut pouvoir naviguer. Et c'est un peu là que je me suis dit, c'est le moment où faut se donner les moyens d'apprendre à faire du bateau. Mais je suis rentrée travailler à Paris dans les médias. Je me suis rapprochée du monde des bateaux par le journal Le Figaro qui organisait la solitaire. Donc moi je m'occupais de monter des dossiers sport, ce qui m'a permis aussi d'embarquer à bord des bateaux de direction de course de la solitaire du Figaro et tout, d'apprendre avec des gens qui savent. J'avais lu dans un magazine un truc sur la Mini 650. Qui disait un bateau, un homme, un océan. Je me dis, ça me parle, c'est très simple et ça va droit au but. Du coup, je m'étais dit, moi, je vais me lancer en mini. Je sais pas, il y a eu un moment où à peu près tout s'accordait pour me faire comprendre que c'était le moment de partir. Donc, j'ai quitté tout. Je suis venue à Lorient parce que c'était à Lorient que se trouvaient les mini. Je connaissais rien et personne. Voilà. Ma toute première nave en mini, c'était avec Sébastien Picot et Emmanuel Perrier. Et ils m'ont appris à faire un nœud de chaise, et voilà. Et là, c'était juste magique. Mais en même temps, je crois qu'ils hallucinaient de me voir acheter un mini et de me lancer alors que je ne savais pas faire un nœud de chaise. Mais comme, en fait, comme j'ai demandé, je pense aux gens, on m'a aidée et on m'a accueillie. J'ai pas prétendu savoir, j'ai juste appris. Et j'ai appris auprès de bonnes personnes, donc avec, je pense, des bons réflexes. Puis voilà, petit à petit. En se mettant des objectifs atteignables, j'ai eu l'impression que ça pouvait être faisable.
Je C'est sûr que j'ai dû renoncer à ce projet-là parce que quand je me suis lancée en mini, je m'entraîne, j'apprends et je me blesse souvent, des luxations de rotule, des trucs, des entorses. Enfin, bon. Et finalement, c'est pas juste des petites entorses, c'est des trucs qu'il faut m'opérer. Et plus on m'opère, plus on me soigne et plus je me répare et plus en fait, beaucoup à apprendre. Je peux pas prendre le départ des courses parce que je suis opérée, je suis la jambe immobilisée ou en rééducation. Du coup, je me dis comment je vais faire? Et en fait, plus ça va, moins ça va. Mais je m'entraîne dès que je peux. Et en fait, à un moment, bah, le médecin, un chirurgien me dit, et là, il faut opérer encore l'autre jambe. Et là, je comprends, vu le délai, que c'est ma mini qui n'est pas possible. Or, j'avais un peu tout misé là-dessus. Je m'étais un peu jetée sans filet dans cette histoire. Et voilà. Et ça correspond à un moment où je retrouve Corentin de Châtel-Perron, qui me dit bah, qu'est-ce que t'as? Je dis bah, je suis triste parce que voilà, mon projet mini peut pas avoir lieu là. Et lui, il avait aussi une drôle de tête, parce qu'il savait pas quoi faire de ce Taratari avec lequel il venait de faire un très très beau périple. Et du coup, là, je me suis dit, bah, je vais faire ma mini avec Taratari. Enfin, ma mini, hein, disons traverser l'Atlantique, quoi. Taratari, c'est un bateau qui a été pensé et conçu par Corentin de Châtel-Perron, qui est ingénieur, et qui était parti au Bangladesh dans le chantier de Yves Marre, qui est un grand monsieur, et qui fabrique des bateaux pour les pêcheurs du golfe du Bengale, en plus de plein d'autres choses. Et Corentin travaillait dans le chantier, et en voyant des champs de jute sur la rive d'en face, il s'est dit, tiens, cette plante enfin, n'est plus utilisée, parce qu'on faisait des sacs en toile de jute pour le café, pour la pose, pour des choses. Mais en fait, ça ne sert plus beaucoup, puisque le pétrole a un peu tout remplacé. Et du coup, il s'est dit, ce serait peut-être intéressant d'utiliser le jute, comme on utilise le lin, le chanvre, pour faire voilà, des matériaux, enfin un matériau technique qui pourrait être utilisé, et par exemple, dans l'architecture navale. Donc, avec l'aide d'Yves Marre, de Marc Van Peteghem et de leur association, voilà, ils ont lancé ce prototype de bateau qui serait fait donc dans les moules des bateaux du chantier, un chantier qui s'appelle Taratari, le nom du bateau. Et l'idée, c'était de remplacer une partie de la fibre de verre par de la toile de jute et donc de la résine polyester. L'idée, c'était de se dire, en gros, Corentin, il s'est dit, si je veux, pour voir si mon idée marche, eh ben, je vais l'essayer. Donc voilà, ce prototype, c'était pour un peu valider l'idée. Et il a fait un beau périple du Bangladesh à la France, au port de la Ciotat, avec ce bateau qui a 40% de toile de jute, de la résine polyester et des matériaux de récup. Le mât, la baume, c'est de la tuyauterie de cargo qu'il avait récupéré sur les chantiers de démolition de Chittagong, donc au Bangladesh. Voilà, c'est que de la récup et ça donne un état d'esprit assez particulier. Mais le bateau est unique dans le sens où ce bateau est ponté. Il n'y a pas de quilles, mais il y a des dérives latérales qui sont lestées. Et c'est un petit peu un moyen de permettre au bateau d'aller au large, même si il n'est pas normalement conçu pour ça. C'est un peu le périple qu'a fait Corentin. Et ensuite, il est reparti travailler sur le jute. Il a conçu un bateau 100% jute, cette fois-ci avec un procédé d'infusion. Il a fait un périple et ce qui l'a amené une nouvelle idée, un nouveau projet qu'il avait envie de développer, qui sont les low-tech, c'est-à-dire en gros à l'opposé des high-tech, rendre des solutions accessibles à des millions de personnes. Il fait un grand voyage à bord de Nomade des Mers tout autour du monde, à la rencontre des low-tech pour les comprendre et les partager pour que ça puisse être utilisé par le plus grand nombre de personnes. On voit ce bateau déjà, je trouve qu'on va mieux dans sa vie. Alors, quand on arrive sur le ponton, on voit en général un petit bout de mât orange qui dépasse. Il faut savoir que Taratari, il est très très bas sur l'eau. Il a une ligne magnifique qui ressemble à un sourire ou une banane ou enfin ce qu'on veut, mais il est joli. Il fait 6,50 m à la flottaison et 9 m en tout. Mais il fait à peine de large au plus large, un peu près au niveau du mât. Donc, comme je disais, il n'y a pas de quilles, mais il y a des dérives qui sont lestées, enfin 1,50 m. Et ça permet de garder un équilibre au bateau. Et curieusement, c'est peut-être un des rares bateaux où, quand on dit on monte à bord, en fait, non, du ponton, on descend à bord. Parce que la grande particularité de Taratari, c'est d'être très très bas sur l'eau. Par endroit, il y a à peu près 5 cm de franc-bord. Et comme ça a une forme de sourire, et ben, on va dire au niveau des fossettes, il doit avoir, je ne sais pas, 40 cm de franc-bord. Enfin, on est vraiment bas sur l'eau, et ça, c'est un peu la particularité. Donc, quand il a pas ses voiles, on a l'impression peut-être de loin de voir un canoë, une barque. Le fond est bombé, donc c'est pas pratique. Il est marron, enfin, il est couleur toile de jute parce que il y a une toile qui a été peu imbibée pour faire un peu antidérapant et pour bien râper les fesses quand on a la barre longtemps. Parce que donc la barre, c'est une barre franche qui est magnifique. Il y a plein de choses sur l'histoire de la barre qui a été sculptée par quelqu'un du chantier au Bangladesh qui est sublime. Et donc, je suis en gros accroupie quand je suis à la barre, les fesses posées sur le petit rebord du bateau. Qui fait à peu près 5 cm de large. Et donc, je suis en gros la position, il faut imaginer être un peu accroupi tout le temps. C'est pas du grand confort, mais en fait, on s'y fait. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. On ne tient pas vraiment à 2 ou 3 en extérieur sur le bateau. Donc, quand sur l'Atlantique, moi, on était 2, il faut qu'il y en ait un dedans, un dehors. Alors, dehors, il n'y a pas vraiment d'espace de vie. Une sorte de hublot carré pour rentrer dans le bateau, pour rentrer déjà de manière un petit peu. Je ne dirais pas qu'il faut être contorsionniste, mais bon, c'est pas très vaste. Et il y a un hublot aussi à l'avant, qu'on appelle la terrasse, qui est juste à l'avant, entre le mât et l'étai, la cadène. Et là, il y a un beau hublot et on peut, si besoin, on peut sortir ou entrer par là. Et comme le bateau n'a pas de quilles, dans une houle atlantique qui roule beaucoup, malgré les dérives lestées, ce qui fait qu'on ne peut pas trop envisager d'amarrer la barre. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça que j'avais un petit pilote, juste un vérin tout simple. En Méditerranée, ça a été, mais c'est vrai qu'en Atlantique, le pauvre petit moteur, il surchauffe, il brûle parce que c'est beaucoup trop compliqué de rectifier la trajectoire alors qu'il roule. C'est joli, mais c'est une danse, quoi. Donc, le pilote, il n'est pas fait pour danser dans la houle comme ça, quoi. Voilà. Taratari pèse 1,5 t. Plus ou moins, quoi. Enfin, ça dépend s'il est chargé d'eau. Je pense que parfois, il a été beaucoup plus. En fait, il y a vraiment une petite entrée d'eau un peu mystérieuse. Et je sais que ça a été un vrai petit souci en Méditerranée sur un cap que j'arrivais pas à passer, donc auprès dans le vent fort. Il y avait tellement d'eau dans le bateau que ça faisait carène liquide. Donc en fait, j'arrivais pas à virer. Parce que dès que je me retrouvais face au vent, bah, en fait, hop, je pouvais pas. Ça marchait pas parce qu'il y avait trop d'eau dans le bateau et le vent était trop fort. Donc je devais empanner. Donc bref, je faisais des espèces de bords carrés. Au bout d'un moment, ça devient un peu inutile. Donc oui. Là, je crois qu'il était un peu plus lourd dans ces moments où le bateau était vraiment plein d'eau, mais c'était dans du vent fort et je ne pouvais pas écoper comme je voulais. Parce que j'écope au seau de 10 litres. C'est ce qui est plus efficace que les pompes et tout. Enfin, il y a trop d'eau. Donc, c'est au seau. Et pour ça, bah, faut pas barrer. Et parfois, je peux pas ne pas barrer. Enfin, c'est toujours un équilibre à trouver entre ce qu'il faut faire, ce qui est mieux pour le bateau. Donc dans ces cas-là, je faisais demi-tour, j'allais mettre à l'abri et puis voilà, c'est pas grave. J'attends des meilleures conditions, un vent un peu moins fort, qui me permettrait aussi du coup d'embarquer moins d'eau, parce que plus j'allais vite et plus l'eau rentrait. Bref, voilà, des mystères. C'est vrai que quand tu le fais, quand tu sors tes 4 ou 5 seaux d'eau, tu dis pas, ça y est, j'ai résolu le problème, ou tu sais pas que plus tard, en fait, ce sera encore pire, ou je sais pas. Disons que tu es sur le moment, et pour moi, déjà, ça réchauffe. Parce que je suis accroupie, je prends mon seau d'eau, je passe le seau, les bras par le. Juste en dehors du bateau, par le hublot, par la descente. C'est c'est assez, comment dire, assez simple comme geste, assez sport, mais ça réchauffe. Et puis pour moi, après, ça faisait partie de la mécanisme de vie. Enfin, voilà, c'est régulièrement, je descends, j'écope, je fais mon point, je veille, je regarde, je dors 5 minutes. Enfin, ça faisait vraiment partie de la routine. Du coup, ça devient plus du tout un problème. Et puis ensuite, on accède donc dans le bateau. Il y a une grande planche qui me sert parfois de table à cartes quand c'est pas trop humide, mais c'est souvent très mouillé. Et voilà, à l'intérieur, on ne tient pas vraiment assis la tête droite. Bon, donc pas évidemment debout, mais on peut s'allonger. Il y a des planchers avec des petits matelas. Sous ces planchers, moi, j'ai straté des petites équerres pour pouvoir amarrer des bidons d'eau, qui sont mes réserves d'eau douce. Et quand un bidon est vide, bah, je mets de l'eau salée, ça peut enfin, conserver le poids et donc le lest pour l'équilibre du bateau. Dedans, j'ai pas d'électronique, enfin, j'ai pas d'ordinateur, il y a juste un compas. Comme souvent j'étais trop basse sur l'eau, le sextant m'a pas trop servi en Atlantique parce que j'arrivais pas à voir l'horizon. C'était une vague. Donc j'avais un petit GPS portable Garmin qui me donnait ma position, mais globalement c'était à l'estime, enfin voilà, avec mes cartes papier. En Méditerranée, je troquais des choses qu'on me donnait contre des cartes marines, des choses comme ça. Voilà. Et sinon, bah, pour la petite visite du bateau, voilà, il y a un petit réchaud pour faire chauffer de l'eau. Voilà, c'est simple, hein. Mais c'est cosy, c'est mignon. J'ai récupéré Taratari et je l'ai accueilli à Lorient. Et finalement, c'est pas vraiment moi qui l'ai accueilli parce que j'étais hospitalisée dans un centre de rééducation à côté de Lorient, à Kerpap. Et j'étais vraiment très mal en point. Et là, c'est un ami, François Robert, qui est quelqu'un en or et qui a un chantier, qui j'ai dit qu'on peut mettre Taratari dans la cour de ton chantier. Et il n'a pas réfléchi, il m'a dit oui tout de suite, évidemment. C'est un chantier de 3 mois, donc à Lorient. Première nav, ça a été aller à Groix. On a passé la nuit là-bas, Corentin, et on est revenu. Et puis la deuxième nav, ça a été d'aller vers Concarneau. Et je suis rentrée toute seule. Et là, c'était n'importe quoi. J'étais partie sans GPS en fin octobre. Mais bon, c'était bien sûr. C'est cette nav-là, je pense, qui m'a fait prendre conscience que ça commençait. Et j'étais folle de joie et convaincue de ce qui démarrait. Moi, je suis partie en mer en novembre parce que je suis sortie de mon centre de rééducation en juin, fin juin. Et du coup, j'ai fait le chantier après et j'avais plus envie d'attendre après des mois de. Enfin, j'avais passé 3 ans à être opérée en soins, tout. Là, les 7 mois, 6 mois alités, c'était viscéral. Il fallait que je parte maintenant, même si sur le papier, partir. Ben, en novembre, c'est pas vraiment l'idéal. J'avais envie de partir de là où était arrivé Corentin. Je connaissais pas spécialement, j'avais jamais navigué en Méditerranée, mais je trouvais joli de continuer le chemin du bateau, qu'on a emmené le bateau par la route à La Ciotat. On est parti en 17 novembre et c'était génial. Ouais, je m'étais dit si j'ai peur ou si j'ai pas de plaisir, ben, je m'arrête. C'était ça un peu le contrat avec moi-même. Quand je suis partie, il faut savoir qu'il n'y avait vraiment pas grand monde qui y croyait. Corentin y croyait, mais sinon j'avais bon, quelques amis de la course au large m'ont équipé d'un peu de matériel ou de nourriture. Mais globalement, tout le monde me disait que c'était n'importe quoi, de la folie, pas raisonnable et tout. Et c'était très violent parce que moi, je n'avais rien demandé à personne. Et je trouvais ça dur parce qu'ils ne connaissaient pas mon histoire, ne connaissaient pas l'histoire du bateau, ce que j'avais fait. Le bateau, il était vraiment bien, enfin, même s'il a l'air bricolé et pas sécu. Enfin, si, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail. Enfin, je ne sais pas, moi j'avais confiance, mais bon, ça c'était dur. Donc je m'étais dit, je reste à 5, 6 000, 10 000 des côtes pour pouvoir me mettre à l'abri, vu que la Méditerranée peut être un peu surprenante, hein, et puis violente. Et voilà, donc j'ai longer le golfe du Lion, vraiment par les côtes en gros. J'ai arrêté à Barcelone. Ensuite, au nord du delta de l'Èbre, Valence, Gante. Ensuite, dans un petit machin avant le cap des Gata, à Garrucha, parce qu'il y a une réserve naturelle et c'est le fameux cap que j'ai vraiment du mal à passer. J'ai passé 2 mois là-bas, j'ai fait 6 tentatives par tous les temps, toutes les conditions, soleil, pluie, vent, pas de vent, tout, 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 tout. Mais sans moteur, parce que en fait j'ai enlevé le moteur qu'avait Corentin. Et c'est vrai que c'est un peu chaud. Bah voilà, quand il n'y a pas de vent, je suis bloquée. Et, bon. Et du coup, même pour revenir par temps fort au port en faisant demi-tour, ben faut gérer parce qu'il y a moyen de revenir direct à la Ciotat. Si je loupe mon entrée de port, bon, donc tout s'est bien passé, mais voilà, là ça a été un peu long. J'ai contourné par la route du coup ce cap parce que je me dis que l'important est d'avancer. Puis j'avais pas de défi complètement arrêté dans ma tête. Et puis voilà, ensuite il y a eu la mer d'Alborán et je me suis arrêtée à Gibraltar, enfin du côté espagnol, à la Línea de la Concepción, pour préparer la traversée du détroit. Ensuite, ça a été presque une escale au Maroc, parce que là, j'étais avec Maxime qui voulait débarquer. Donc, on est rentré dans le chenal de Casablanca et de Mohammedia, ensuite plus au nord. Finalement, on a continué vers les Canaries, à Lanzarote. Là, je suis arrivée en mai, donc la saison cyclonique commençait, donc il fallait pas naviguer, évidemment. Donc, je me suis fait une jolie et longue escale magique, avant de repartir ensuite, en 23 décembre, vers. Le Cap-Vert. Là, ça a été mes super sports. On est avec Maxime Dreno, qui est de mes amis marins, peut-être le plus calme et le plus zen. Et c'est ce qu'il fallait absolument pour pouvoir embarquer à bord de Taratari, parce que à plein de niveaux, en fait, il faut pouvoir être voilà, dans l'écoute du moment, que ce soit pour faire 4 jours de sur place ou pour s'en prendre plein la figure dans le vent fort. Ça peut être compliqué pour les nerfs de tout le monde. Moi, j'avais appris la patience et tout ça dans mon lit d'hôpital. Je crois que c'était l'expérience la plus forte, la meilleure préparation mentale à ce genre d'expérience ensuite. Mais donc, voilà, Maxime, chapeau à lui, parce que c'était pas simple tous les jours, pas facile forcément pour lui d'arriver là-dedans. Et ensuite, du Cap-Vert sur l'île de São Vicente, ça a été direction la Martinique. J'ai l'impression que dans ma tête, le parcours que je fais avec Taratari, il n'a rien de géographique. J'ai vraiment un autre concept où je ne me dis pas je vais d'un point A à un point B en tant de temps. Enfin, pour moi, c'est vraiment le chemin qui se passe. Et je me souviens par exemple de moments hyper forts où je tournais devant la Martinique, enfin dans le canal de Sainte-Lucie. Et là, c'était tellement fort que c'était pas possible de rentrer dans le chenal et en faire des tours et des tours. J'avais l'impression de voir des chevaux au galop dans une arène et je trouvais ça hyper drôle. Et par exemple, ce moment, moi, il m'a marqué, mais il a rien d'impressionnant ou de notable dans le parcours et tout ça. L'archipel des Canaries et l'archipel du Cap-Vert, on a mis 11 jours en mer, donc toujours avec Maxime. On a eu 9 jours et nuit de tempête. Comme je disais, il n'y a pas d'instrument à bord, donc j'ai pas d'anémomètre et tout. Mais c'était d'une violence inouïe. En fait, les fichiers météo qu'on avait pris avant de partir étaient bons. On a eu première 24 heures magiques, le temps de glisser sous les îles. Et là, ça a été n'importe quoi. Ça a été tellement fort. Pour dire, moi, j'ai des lentilles de contact. Quand j'ai dû aller au pied du mât, parce qu'enfin, il y avait un problème avec la voile d'avant. Et quand je suis là, en fait, le vent est tellement fort qu'il m'a arraché une lentille de l'œil. Donc, je sais pas trop ce que ça donne question anémo, mais c'est quand même pour moi qu'il y avait du vent parce que même tout chouste, j'ai jamais perdu une lentille et donc c'était pas pratique en plus là. Pour le coup, j'avais vraiment besoin de mes yeux. Ah, et ouais, ça a été violent. Donc là, on a tout affalé et on allait quand même à 7 nœuds. Ça, je peux dire là notre vitesse parce que du coup, on avait le petit GPS qui nous donne nos coordonnées qui pouvait nous donner notre vitesse. Donc, on n'a pas de bardage vraiment. De fardage sur le bateau, mais il y a le haut de la GV qui faisait un mini panneau et qui était assez puissant pour nous propulser vite, quoi. Et en fait, là, le danger, c'est que la mer était croisée, mais c'est connu sur enfin, comment dire, à cet endroit-là. Il y a des hauts plateaux, il y a des trucs qui font qu'on a beaucoup, enfin, c'est fréquent d'avoir une mer croisée. Là, on avait une houle forte du nord et une mer de vent. Enfin, on avait. C'était quoi? C'était est et nord, et c'était à déferler de côté. Et donc, on pouvait anticiper ce qui venait de derrière, mais on se faisait chasser par les vagues qui venaient de l'est. Et ouais, c'était violent. Et là, à un moment, à la barre, Maxime. On fait notre relève de barre. Et là, je vois, c'était la nuit, je vois un mur d'eau qui monte derrière lui. Assez pour que enfin, j'ai eu le temps juste de fermer la descente. Je suis tombée vers l'avant du bateau. En fait, le cul du bateau a été soulevé par la vague. Et là, on est tombé. Enfin, on est tombé, ouais. Le bateau, ensuite, a planté le nez avant de se coucher sur le côté. Mais pour qu'il plante le nez, c'est-à-dire qu'on a dû faire une chute de 8 ou 9 mètres. Le bateau fait 9 mètres. Ouais, ensuite les vagues déferlaient sur le côté. Et là, Maxime me dit, présent, c'est ça va, on se demandait si on allait bien. On allait bien. Et il me dit, ah bon, la bonne nouvelle, c'est que les feux de mât sont étanches parce qu'il y avait les feu qui était on avait un feu tricolore en tête de mât qui marche avec un panneau solaire et en fait ils étaient sous l'eau à 1 mètre sous l'eau apparemment et en fait ils ont fonctionné quand même donc c'était étanche enfin, une manière un peu voilà légère de se dire que c'était chaud mais c'était dur mais on a toujours été vraiment très bienveillants à pas s'en plaindre à pas voilà même si c'était impressionnant sur le coup on n'a pas du tout été dans la panique plutôt à se demander comment l'autre allait et tout. Parce qu'on savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Après, arrivé au Cap-Vert, des bateaux de plaisance, on va dire plus normaux, plus grands, ils étaient tous avec des voiles cassées, des voiles déchirées, des baumes cassées. Enfin, il y avait de la casse, quoi. Nous, on a rien cassé, mais c'est très très chaud. À un moment, je me souviens avoir vu le ciel très étoilé, de me dire c'est pas cool de faire ça aux parents. Enfin, j'ai pensé à ça, mais je sais pas comment dire. Moi, en fait, tout ce gros temps vers le Cap-Vert, je me suis pas dit qu'on allait y passer. Je sais pas. On était, je crois, concentrés, tellement concentrés et dans l'action que voilà, la peur, elle devient saine parce que t'en fais une alliée pour agir le mieux possible et faire le mieux possible. Je trouve que l'autre, l'équipier, est aussi un élan vital parce que moi, je me sentais responsable aussi d'avoir embarqué là-dedans. Et j'ai envie que ça se passe bien pour lui, enfin, pour le bateau, parce que si ça se passe bien pour le bateau, déjà, ça se passe bien pour nous. Mais je trouve que du coup, de se soucier de l'autre et Maxime de moi ou moi de Maxime, ben, en fait, on donne le meilleur de soi et je ne sais pas si on fait aussi bien quand on est seul, seul dans ce genre de moment. Donc je trouve ça beau aussi pour dans la vie de tous les jours de souvenir de ça en fait. L'autre est un élan vital, c'est joli je trouve. Après, moi j'avoue, j'ai absolument adoré et si je devais repartir aujourd'hui vivre ces 11 jours de mer en connaissant ces 9 jours compliqués, je repartirais complètement. Pas par folie suicidaire, mais parce que je suis complètement émerveillée enfin, j'ai un respect. Moi, j'ai trouvé sublime la chance de vivre ça, de voir ça, les éléments. Je sais pas comment dire. Je suis complètement émerveillée. Donc, même si ben, ça va te paraître très bizarre, mais même si ça devait s'arrêter là-dedans, mais c'est trop beau. Enfin, j'aime la vie, je veux vivre, mais vivre ça, c'est aussi tellement grisant et fort. Enfin, moi, enfin, j'aime ça. J'aime être en mer et aussi pour ça, pour ces moments où tout est grandiose, que j'ai dit ça, j'ai l'impression que ça peut être un sujet d'incompréhension aussi. C'est pas que je vois pas le danger, c'est que je le trouve sublime, quoi. Délicieux, en fait.
Je Je pense que c'était l'un des moments les plus extrêmes de mes navigations. Ça, ouais, c'est sûr. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas parce que je ne sais pas si j'y retournerai. Enfin, non, franchement, je ne sais pas. C'est une question assez difficile parce que c'était une belle aventure. Je ne suis pas fermé à l'aventure du tout. Maintenant, c'est toujours plus facile de faire des choses quand on ne sait pas, quoi. C'est la phrase de Mark Twain qui dit: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et au final, peut-être que si on nous avait dit vous allez faire ça, 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 est-ce qu'on y serait allé? J'en sais rien. Je ne sais pas. Là, si on me disait demain il faut y retourner, si on me dit oui, tu peux y aller et que tu es sûr de revenir, parfois, pourquoi pas? C'est ça. C'est ça le truc.
J'avais vraiment prévu de faire cette traversée de l'Atlantique toute seule. Pourquoi, j'en sais rien. C'était pas par défi ou challenge, pas du tout. J'avais vraiment envie de vivre quelque chose de fort en mer. Et je suis bien toute seule. Enfin, je suis bien un peu solitaire. Maintenant, j'avais eu des nouvelles aussi d'un ami à Carpap qui allait pas bien. Si j'attends pour avoir des pilotes automatiques plus solides, qui supporterait la houle et la traversée, déjà attend un an. Moi, ça ne me dérangeait pas d'attendre un an au Cap-Vert. Maintenant, je ne savais pas si cet ami pouvait attendre. Lui, il avait un an de vie encore devant lui ou pas. L'Alizée était en train de se... Enfin, voilà, était fin janvier, était fort. Tout était bon pour y aller. Et avec Maxime, on venait de vivre quelque chose de complètement fou. Donc, jusqu'au dernier moment, il était pas... lui, il regardait ses billets pour rentrer en France. Et puis en fait, quand j'ai vu que, voilà, ces petites choses, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment important que je sois toute seule? Sachant que là, quand on est deux, en fait, on est deux solitaires, parce qu'il y en a un dedans, un dehors. Et du coup, j'ai demandé à Maxime s'il voulait venir, et je pense que, ouais, il en rêvait. Et, enfin, rêvait, je parle un peu vite et à sa place. Je ne sais pas, en tout cas, il m'a dit oui, carrément, il n'a pas hésité. Et nous, après ce qu'on venait de vivre, on s'est dit qu'on pouvait juste pas finir le job, mais traverser l'Atlantique, c'était plus, c'était presque dérisoire parce que cette route-là, elle est empruntée par plein de gens, par plein de bateaux, les rameurs y vont. Enfin, c'est rare que dans ce sens-là, ce soit vraiment, vraiment compliqué. Je pense que ce qu'on venait de vivre était vraiment fort. On s'est dit que ce serait pas pire que ça. Peut-être qu'on a tort de raisonner comme ça. Pourtant, on n'a pas eu moins de 30 nœuds sur la traversée, parce qu'on est parti traverser en février. Donc, c'est sûr que les alizés étaient bien établis. On est arrivé en Martinique le 26 février, au 23, je ne sais plus. Et du coup, bah, c'était bien, mais il ne fallait pas arriver après, je pense. Enfin, après, ça devient de moins en moins raisonnable. Voilà, plus on s'approche de l'été, moins c'est bon, quoi. Donc, c'était pas mal. On était déjà vraiment dans un schéma de bienveillance, par exemple, après le détroit de Gibraltar qui a été très dur. Mais je sais qu'à un moment, Maxime, il a dû dormir 5 heures ou un truc comme ça. Enfin, il a fait vraiment un long temps de sommeil parce que là, il en avait besoin. Après, par exemple, c'est des petits détails. On faisait des quarts en Atlantique de 2 heures quand les conditions étaient belles, hein, on va dire. Des quarts de 2 heures. Il faut savoir que donc, pendant ce temps-là, celui qui barre. Enfin, c'est pas, il n'y a pas un pilote et on est en veille sur le pont. On barre et donc dans une houle, avec un bateau qui roule, donc on risque l'empannage si on n'accompagne pas le bateau à chaque passage de la houle, de l'onde. Donc du coup, il faut être lucide. Et plus on avance, plus on est fatigué et donc moins on est lucide. Donc on pouvait s'adapter aussi si on se sent fatigué à dire voilà, on va dormir. Enfin, moins, parce qu'on va tenir moins longtemps à la barre. Donc, quand tout va bien, en Atlantique, pardon, on tient 2 heures. Mais on comptait nos 2 heures à partir du moment où on voyait la frontale de l'autre s'éteindre. Et ça, ça semble idiot, mais c'est d'un respect et d'une gentillesse pour celui qui va se reposer. Parce que, en fait, il faut savoir qu'on est trempé. Donc, la relève de barre, déjà, c'est assez. C'est entre la contorsion, le yoga et le cirque. Parce qu'il faut passer. Donc il y a les longes, voilà, les mousquetons à passer sur la ligne de vie. Ensuite, il faut enjamber la jambe de l'un, faire gaffe à la barre. Ensuite, celui qui a la barre décale un peu ses fesses pour que l'autre puisse passer l'autre jambe au-dessus de l'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment compliqué, hein. C'est déjà, je pense, une prestation artistique assez belle. Ensuite, il faut donc enlever le harnais, les longes. On commence toujours celui qui est trempé qui rentre par écopé. Donc, faire virer tous les seaux parce qu'on trouve que quand tu es trempé, c'est plus facile d'écoper que quand tu te lèves tout sec de ta sieste et tu commences par enlever des seaux d'eau, tu risques de t'en prendre un dans la figure. Voilà. Ensuite, les petites choses, on est trempé, donc tu enlèves ton ciré, tu as la peau, parfois ça fait du bien d'essayer avec un peu d'eau douce ou une lingette ou tous les soins pour les fesses des bébés qui existent parce que bah, plus ça avance, plus la peau elle a mal. Et puis voilà, on a besoin de boire un peu d'eau, de manger un petit truc, je sais pas. Et en fait, quand on voit s'installer bien, trouver sa position pour dormir, et voilà. Et donc, quand la frontale de celui qui est à l'intérieur s'éteint, ça veut dire que là, il va dormir, puisqu'il n'y a pas du tout de lumière dans le bateau. Et ça changeait tout, parce qu'on avait vraiment 2 heures de sommeil. Et ça, c'était un petit truc de bienveillance, mais je pense qu'il a mis une très bonne ambiance à bord et on faisait ça. Après, moi, j'ai moins besoin de sommeil que Maxime, donc parfois le matin, et j'adore le lever du, enfin, l'arrivée du jour, donc qui perce la nuit, là, une espèce de dégradé de bleu, jaune, orange bizarre, quand tout s'éclaircit. Et donc parfois le matin, j'avais envie de le laisser dormir un peu plus pour moi profiter un peu plus de. Voilà, donc en fait on était très à l'écoute. Après, dans la tempête, ça pouvait être une demi-heure ou 1 heure parce que là, la lucidité, enfin, de notre lucidité à la barre dépendait notre survie globale. Donc là, ça a déferlé, c'était violent et on a fait des quarts de maximum 1 heure.
Oui, c'est sûr. Je pense, ouais, après les moments très durs, c'est des flashs qui restent. Et puis après, c'est un ensemble. Moi, j'ai un souvenir global très positif, très. Voilà, très. Ouais, c'est ça, très positif, quoi. Après, voilà, c'est après, de toute façon, j'allais dire, les transats, les longues traversées, en général, quand on arrive à terre, on n'a pas grand-chose à raconter. Non, mais c'est vrai, c'est pas. C'est pas un truc qui se partage vraiment. C'est difficile de raconter ce qu'on a fait pendant 3 semaines, finalement, où tu dors, tu barres, tu fais à manger en règle générale, tu lis, tu discutes un peu, mais comme tu fais que te croiser, les moments sont très courts. Tu te souviens des galères, forcément. Mais non, c'est très dur. Moi, c'est pas quelque chose qui se raconte, finalement, une transat. Finalement, c'est une grande balade entre les îles. J'allais dire, c'est comme si on allait là du continent jusqu'à Belle-Île, sauf qu'au lieu que ça dure, au lieu que ça dure 1 heure ou 3 heures, on va dire, ben, ça dure 3 semaines. C'est une aventure humaine, quoi, vraiment. Donc, ça, après, raconter ce qui s'est passé sur 3 semaines, c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas de grande chose, on ne révolutionne pas le monde. Même j'allais dire le côté intérieur, aller essayer de trouver des réponses, je sais pas si on les trouve vraiment. De toute façon, on n'a pas, c'est pas le, c'est pas, c'est un, on est dans un autre état d'esprit, quoi. De toute façon, on est dans un cycle de quart, la priorité, c'est d'avancer. Et du coup, en plus, comme on décale ses sommeils, là, on est forcément, t'as pas la même fatigue, t'es dans un état d'esprit bizarre, au final. Voilà, c'est. Et là, d'autant plus, ouais, sur Tarataré, ouais, on est arrivé quand même à la fin. On était quand même, que ce soit au Cap-Vert, on était complètement déconnecté de la réalité. Moi, je me souviens d'être descendu du ponton, plus le ponton il bouge là-bas à Mindelo, à un peu errer sur le ponton, à pas trop comprendre ce qui nous arrivait, quoi. Et du coup, on était, ouais, vraiment un peu azimuté, quoi. On était vraiment dans un autre truc. Et pareil, à l'arrivée en Martinique, au final, on était. On sortait de notre bulle, il y avait du monde pour nous accueillir et tout ça. Et c'est vrai que tu sais pas trop que raconter aux gens. C'est vrai que t'es un peu dans ta bulle, t'as la fatigue, t'es content de boire une bière et voilà qu'on t'offre en général à l'arrivée. Ouais. Et voilà, finalement, c'est ça le plus. Finalement, on fait peut-être des traversées juste pour l'arrivée, pour boire un verre, et voilà.
J'ai besoin de ça. Un point qui est assez viscéral. Quand je suis partie en mer, quand tout le monde disait que c'était de la folie, mes parents, ils disaient qu'ils savaient et ils le disaient que c'était une question de survie. Moi, il y a vraiment ce rapport à la vie et au vivant, parce qu'il y a la mer, mais il y a le vivant à l'intérieur de cet élément eau et mer, et ce lien aussi avec l'élément air et le ciel et les étoiles. Et pour moi, c'est une sorte de tableau complet. Et je me sens mieux en mer. Moi, j'ai moins. Déjà, rien que physiquement, avec mes problèmes de santé, j'ai moins mal en mer. Je me sens mieux. Et ça, donc, ça m'apaise. Et j'aime donc tous ces caractères, ce rapport à la mer. Oui, il est difficile à décrire, mais c'est là où je me sens le plus heureuse.
À son retour, Capucine écrit Taratari, mais elle, ma liberté, son tout premier livre. Elle compte bien retrouver Taratari au plus vite et repartir vers de nouvelles contrées. Mais pour le moment, Capucine veut toujours soigner sa santé fragile. Elle continue son combat en prenant la simplicité, la résilience et l'acceptation que Taratari incarne si bien. Elle travaille aussi actuellement à l'écriture d'un nouveau livre. Retrouvez le portrait de Capucine sur le site du podcast womenofthesis.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme politique engagée pour la protection de la biodiversité marine sur l'île de Malpelo, au large de la Colombie.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.